Les sports. Les sports. Je rejoins mon collègue Mathieu Boulay, journaliste sportif au Journal de Montréal, qui est encore à Wimbledon pour le tournoi, évidemment, le célèbre tournoi de tennis. Salut Mathieu.
Hey, salut Alexandre.
Bon, le tableau s'est dégarni. Là, on a raté 3 jours de radio pendant que j'étais en congé, moi, et que nos auditeurs là, peuvent écouter des balados vendredi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathieu, sur le tournoi, là, sur le tableau du tournoi?
C'est simple. Je pourrais dire que c'est une hécatombe. Tant du côté féminin que masculin, il y a eu beaucoup de séries qui ont perdu assez rapidement dans le tournoi. Les Canadiens, que ce soit Bianca Andreescu, que ce soit Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime, ont été éliminés assez rapidement dans le tournoi. Soit, je dirais, par des mauvaises performances ou peut-être un manque de chance dans certains d'autres cas. Et c'est ça qui est un peu plate, je te dirais, Alexandre, depuis le début du tournoi. Il manque quelque chose au tournoi de Wimbledon de cette année. Okay. Premièrement, il y a eu l'annulation de la participation des joueurs russes. Ça, ça l'a fait excessivement mal au tournoi en premier lieu.
Oui, parce qu'il y avait des grosses têtes de série parmi les
Russes. Il y a eu la décision aussi de l'ATP et de la WTA de ne pas accorder de points pour le tournoi. Alors, je me demande vraiment si, mettons, t'es un joueur d'élite, tu sais que si tu perds, c'est pas grave, parce que tu perds pas de points au classement. Oui, tu reçois un chèque de paye pareil, tu sais, puis tu peux te reposer peut-être 2 semaines avant de repartir sur la saison, sur surface dure après. Est-ce que les têtes de série ont vraiment forcé du nez dans cette première semaine? J'ai des doutes. Évidemment, également, qu'est-ce qui a fait aussi mal au tournoi? C'est la COVID-19 qui a réapparu dans les mœurs du tournoi. Il y a 3 joueurs qui ont déclaré forfait de pointe. Mmh. Matteo Berrettini, qui était finaliste l'année passée. Tu as eu Marin Cilic, qui est un excellent joueur de gazon. Et tu as aussi Roberto Bautista Agut, qui ont déclaré forfait à l'espace de 48 heures. Fait que là, il y a eu un léger vent de panique à un moment donné parce qu'il disait, ben là, les gars, il faut qu'ils... Les joueurs commencent à mettre des masques dans le vestiaire ou quand ils se côtoient. Mais pour le moment, il n'y a pas eu d'autres mesures. Il n'y a pas eu d'autres cas de COVID-19.
Okay.
Mais je te fais un portrait global de la situation à Wimbledon. À quoi qu'on peut s'attendre d'ici la fin du tournoi? Là, présentement, Nick Kyrgios est sur le terrain. Il perd une manche à 0. Mais je dois dire que Nick Kyrgios a monopolisé l'attention au cours des derniers jours.
Ouais.
Pour ses frasques sur le terrain et à l'extérieur du terrain. Et évidemment, on a assisté à un match épique contre Stefanos Tsitsipas que je pourrais dire que c'était plus un... Ça ressemblait plus à un combat de boxe qu'à un combat à un match de tennis.
Ah ouais,
parce qu'il y a eu de l'intimidation. Ça s'intimidait sans s'intimider, tu comprends? Il y avait comme des gestes qui s'étaient posés juste pour faire savoir c'est qui le boss sur le terrain. C'est super intéressant, par exemple, parce que Kyrgios, avec son franc-parler légendaire, a engueulé l'arbitre, a engueulé le juge de ligne.
Un classique.
A envoyé la balle des estrades en direction des spectateurs. C'était vraiment... C'était pas vraiment l'étiquette du tennis qu'on connaît habituellement.
Ouais, puis ça a dû donner là, tout un match. C'est vrai qu'on voit rarement ça au tennis. Alors, il reste qui là, chez les hommes? Là, je regarde rapidement dans les gros noms, là, par exemple, que quelqu'un qui suit là de manière superficielle le tennis comme moi connaît. Mais évidemment, Novak Djokovic qui est encore là. Raphaël Nadal va jouer aujourd'hui, si je ne m'abuse. Tu parlais de Nick Kyrgios, mais t'as raison, à part ça, je dois t'avouer, je connais pas vraiment les autres joueurs qui sont encore, du moins là, du côté masculin.
T'es un joueur, Alexandre, admettons, comme David Goffin. T'es un bon gars, là. T'es un bon joueur de tennis. Mais il n'y a pas de personnalité. Il n'y a pas. La seule, là, mettons, Kyrgios, présentement, s'il perd contre. S'il gagne contre Nakashima, là, le gros duel du tournoi, ça va être Nadal-Kyrgios en demi-finale. C'est ça c'est même qu'on le projette. Sinon, là, à regarder le tableau, on voit déjà Nadal. Djokovic en finale, puis les deux n'auront pas forcé du nez trop pour se rendre en finale. Parce que l'opposition n'était pas là dans le tournoi. Il y a le premier gros match de Nadal dans le tournoi, ça va avoir été peut-être Djokovic, parce qu'il a eu perdu des manches Nadal dans le tournoi, mais il n'a jamais vraiment été inquiété. Même chose pour Djokovic. Hier, Djokovic a peiné lors de la deuxième manche. Après ça, il a ouvert la machine lors des manches 3 et 4. Puis c'était fini bonsoir pour un Irlandais, Van der Veden. Je pense qu'il s'appelle comme ça. J'essaie de le prononcer le mieux possible.
Okay.
Mais c'est ça. En gros, c'est un peu ça qui se passe présentement à Wimbledon. On va voir un peu comment ça va se dérouler cette semaine. Mais peut-être que je vais revenir avant à Montréal, là, avant la fin du tournoi. Là.
Ouais. Par contre, s'il y a un événement qui est à retenir quand même à Wimbledon, ça s'est souligné hier, c'est qu'il y a un anniversaire qui est souligné, pas n'importe lequel,
oui.
Un centième anniversaire, celui du court central de Wimbledon.
Hey, c'est quoi? Je trouvais ça le fun parce que j'ai fait des recherches historiques sur le central. Et le central a été bâti en 1922 quand le tournoi d'Angleterre, si tu veux, a déménagé à Wimbledon pour de bon. Et j'ai regardé un peu comment ça s'est bâti, tout ça. Au fil des années, là, qu'est-ce que je trouve remarquable, Alexandre, par rapport au central, c'est que malgré les années, ils ont gardé le cachet historique de la bâtisse.
Ouais.
Oui, ils ont augmenté la capacité assise. Là, maintenant, on peut mettre jusqu'à 15 000 personnes dans l'enceinte, mais ils ont gardé le cachet historique. Fait que quand tu rentres là, quand tu rentres dans l'enceinte, il y a une saveur, tu sais, il y a une ambiance particulière que tu trouves pas nulle part ailleurs. Dans une ère où ce que les stades, les amphithéâtres, on démolit ça, on rebâtit ça en neuf à coups de milliards, là, ici, ils ont gardé le cachet de la bâtisse, puis ils ont amélioré la bâtisse au fur et à mesure. Cette année, la grosse différence, c'est que les joueurs, quand ils rentrent sur le central, ils rentrent par le milieu du terrain et non pas par la gauche ou par la droite, comme lors des dernières années.
Mm.
Et je te dirais aussi qu'ils ont eu une cérémonie vraiment intéressante hier avec des anciens champions, mais il en manquait plusieurs. C'est ça que je trouvais un petit peu dommage. Il manquait des Martina Navratilova, il manquait des Pete Sampras, il manquait des André Agassi, Steffi Graf, qui ont vraiment marqué l'histoire du tournoi. Ils n'étaient pas là. Pete Sampras, moi, j'ai entendu parler de la part d'un collègue américain que Pete Sampras a carrément donné ses billets. Les joueurs, les anciens comme ça, là, qui ont été champions, ont droit à des billets. Sampras a donné tous ses billets pour 2022, puis il ne viendra pas faire son tour en Angleterre cette année. Donc, c'est un peu dommage, mais c'était vraiment... Le moment marquant de cette cérémonie-là, ça a été la présentation de Roger Federer sur le central. Federer participe au tournoi comme joueur cette année.
Okay.
Mais il était comme là... On le sentait comme semi-retraité. Il est un peu mal à l'aise. Il savait pas trop s'il devait y aller ou pas. Il devait venir à Wimbledon. Parce que, veut pas, c'est le roi du gazon. Au fil de sa carrière, il a remporté plusieurs titres. Mais Roger Federer, lui, il veut revenir une dernière fois. Mais est-ce que son corps va lui permettre de faire cette dernière apparition-là à Wimbledon? Ça, c'est une question qui demeure sans réponse pour le moment.
Écoute, il y avait également dans les autres sports, Mathieu, en fin de semaine, un Grand Prix de Formule 1, Grand Prix de Silverstone. Première victoire là, de Carlos Sainz, mais malheureusement, c'est peut-être pas ça qu'on va retenir en priorité parce que ça a brassé durant ce Grand Prix-là. Il y a eu, entre autres, des accidents spectaculaires. Et là, le fameux halo de sécurité, hein, cet anneau là, de titane qu'on retrouve sur la voiture qui protège le pilote, qui a été... très critiqué au départ là, quand on l'a installé, mais a probablement sauvé la vie, encore une fois, à deux pilotes.
Oui, tout à fait. Il y a eu en F1 avec Zhou Guanyu, qui est un pilote chez Haas, je crois.
Alfa Romeo. Hein.
Alfa Romeo, excusez-moi. Et lui, au départ, il s'est abrassé lors du premier virage. Il y a eu Alex Albon qui est rentré dans le mur. Et lui, il a passé par-dessus, puis il a fait des tonneaux vraiment, là, une scène vraiment épeurante. Parce que il est tombé à la renverse, puis il a glissé pendant au moins plusieurs mètres, sur le, alors que les roues étaient dans les airs. Mais tu voyais les flamèches, mais pendant ce temps-là, la tête du pilote chinois était protégée. On a souvent critiqué ça, Alexandre, là, au cours des années, au niveau de la F1, parce que là, ça faisait, ça donc l'air fou. C'est donc pas beau esthétiquement. Les photographes ils criaient un peu parce que ça on voyait pas la face du pilote.
Ouais.
Mais je dois dire que là, on a eu plusieurs preuves dans les dernières années que ça peut sauver des vies, ou du moins éviter des dommages sérieux à des pilotes. Et même il y a eu une autre course, je pense en S2, où ce que tu vois un pilote Red Bull qui a comme volé. Son véhicule a décollé, puis puis il atterrit vraiment sur le véhicule d'un autre, sur une autre monoplace. Si t'as pas la roulette de sécurité, là, le pilote qui reçoit la voiture sur lui, ben il est décapité. Parce que ça va excessivement vite. C'est des grandes vitesses. Parce que là, il est à faire une ligne droite en plus en F2, je me trompe pas. Alors, tu vois que cet élément de sécurité-là qui a été ajouté dans les dernières années est maintenant crucial pour les courses. Parce qu'auparavant, on aurait pu assister à plusieurs drames, tragédies sur la piste, sur les différentes pistes dans le monde. Donc, les concepteurs, la FIA, bravo, chapeau pour cette initiative-là. Même si au départ, le monde était un petit peu perplexe par rapport à cet élément de sécurité-là.
Ouais, parce que tu le dis, c'est pas la première fois que ça sauve des vies. En novembre 2020 à Bahreïn, entre autres, c'était Romain Grosjean qui était entré là à 220 km/h dans une barrière de sécurité. S'il y avait pas eu là, tu parlais de décapitation, on est un peu morbide ce matin pendant la chronique, mais c'est ce qui serait arrivé là. Il aurait perdu la tête littéralement, c'était pas de ce halo de sécurité là. Septembre 2021, accrochage en Max Verstappen et Lewis Hamilton au Grand Prix d'Italie, ça aurait pu aussi avoir des conséquences là, assez catastrophique. Merci. Donc, je pense que c'est un élément qu'au départ, on n'était pas certain, mais qu'on va apprendre ou qu'on a appris à aimer là, assez rapidement pour sauver la vie des pilotes. Mathieu, en espérant que ça continue d'être intéressant là à Wimbledon, que les têtes de série passent et qu'on ait là une finale, des demi-finales intéressantes. Tu vas continuer à suivre ça pour nous cette semaine. On se reparle demain. Gros merci, Mathieu Boulay.
Je retourne à mes fraises et à ma crème à l'instant.
Chanceux. Salut Mathieu.
Salut Alex.